2000 ans, un homme qui a été appelé par Jésus a dit à Jésus à un moment donné, toi tu vas pas aller à la croix, tu vas pas mourir. Et Jésus lui dit, si toi tu vas m'abandonner, non non, moi je t'abandonnerai jamais. Moi je vais être constant, je vais être fidèle à toi, je vais m'accrocher à toi, je serai toujours là. Cet homme va quand même renier trois fois le Seigneur. Il va avoir un face-à-face avec Jésus après. Et puis cet homme va devenir un grand prédicateur et va amener à travers lui, hein, que le Seigneur va utiliser, des milliers d'âmes à travers sa prédication. Et c'est bien sûr l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand on arrive en Actes chapitre 2, on est à Jérusalem, c'est le moment de Shavuot en hébreu, c'est la Pentecôte juive. Les gens arrivent d'un peu partout, du Moyen-Orient, même de l'Europe. Hein. Ils viennent pour faire cette fameuse fête à Jérusalem. Et puis c'est là que le Saint-Esprit a décidé de venir habiter, faire sa demeure dans la vie des croyants. Et Pierre va se lever et va prêcher la parole de Dieu avec puissance. Puissance, puissance. Et il va pas prêcher un évangile à l'eau de rose. Hein. Il va prêcher la repentance, il va prêcher Christ crucifié, Christ ressuscité, qu'il faut placer sa confiance en lui et demander pardon pour nos péchés. Et suite à sa prédication, est-ce que vous savez combien de conversions il y a? Combien? 3000. Petit chiffre, hein? Je crois que c'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui. Certains disent, mais non, les actes des apôtres, c'est historique, il faut le voir comme ça. Je dis, non, c'est pas qu'historique. C'est la puissance de Dieu. Il peut en voir encore des réveils spirituels aujourd'hui dans notre propre pays. Cet homme a prêché la parole de Dieu, 3000 âmes. Comment gérer ces 3000 personnes? Dieu n'a pas peur des chiffres. Nous, des fois, on a peur de parler de chiffres. Dieu n'a pas besoin peur de chiffres parce que 2-3 semaines après, combien encore de conversions? Combien? 5000. On est déjà à 8000. Ça fait du travail hein, pour cette petite équipe de 120 personnes dans la chambre haute en acte 2. Même si je sais bien qu'il y a beaucoup repartaient dans leur ville natale. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir ces 3000 premiers chrétiens, quel était leur programme? Comment gérer cette première église locale en fin de compte? Ou ces premières églises locales? C'était quoi le programme de l'église? Souvent on parle de programme d'église. Et le verset qu'on va voir ce matin, c'est un verset que j'ai à cœur depuis une dizaine d'années dans mon église locale où je suis pasteur, qui est accroché partout sur les plannings, parce que pour moi, c'est la base, c'est les colonnes, c'est la référence d'un vrai planning d'église locale. Et si on met en pratique ce texte-là, je crois vraiment que le Seigneur fait de grandes choses, vraiment dans une église. Alors, je vous invite à prendre acte 2. Et on va reprendre ce moment où il va y avoir les 3000 conversions et on va voir juste le verset qui suit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est ce petit verset, tout simple, qu'on va travailler. On va voir qu'un verset ce matin. En tout cas, notre verset de référence. Et ensuite, on ira voir d'autres versets ailleurs. Acte 2. Pour se remettre un peu dans le contexte, on va lire à partir du verset 37. Acte 2, verset 37. Et le verset qui m'intéressera ce matin, où on va travailler un peu dessus, ce sera le verset 42. Mais on va lire à partir du verset 37. Si tu n'as pas de Bible, demande à ton voisin qui est gentil de te la prêter. Si c'est la première fois que tu as une Bible dans les mains, tu pourras regarder le sommaire, c'est pas très grave, et tu regardes où est les actes des apôtres. Ok? Acte 2, verset 37. Si tu es arrivé dans les évangiles, tu vas un peu après et tu vas arriver dans Actes. C'est important qu'on ait nos yeux sur la parole. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Donc ce discours, c'est tout ce que Pierre vient de prêcher. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré, il les exhorte disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ça n'a pas changé aujourd'hui. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ceux qui ont demandé pardon de leurs péchés, ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et c'est ça qui m'intéresse ce matin. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il va y avoir ensuite aussi verset 4, on peut lire jusqu'à verset 43, jusqu'à 47 parce que la conclusion est très belle de ce passage. La crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Conclusion. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais bon, ce matin, on va s'attarder sur ce verset 42. Et souvent, les prédicateurs, ou moi-même qui ai déjà prêché plusieurs fois ce passage, on s'attarde pas forcément sur le verbe. Et moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de m'attarder sur ce verbe. C'est le mot persévérer. Persévérer. Pourquoi la persévérance est-elle nécessaire ? Suis-je caractérisé par la persévérance ? Dans quoi dois-je persévérer ? Voilà ces trois grandes questions qu'il faut que vous gardiez à l'esprit ce matin. Pourquoi la persévérance est-elle nécessaire ? Suis-je caractérisé par la persévérance ? Dans quoi dois-je persévérer ? On ne va pas traiter ces questions l'une après l'autre, mais on doit essayer de voir toutes ces questions ce matin. Alors ce mot persévérer, je vais juste être un peu barbare pendant 3-4 minutes, c'est tout, pas plus, sur le côté un peu étymologique. Ce mot persévérer dans le Nouveau Testament revient avec 5 mots différents en grec, qui n'ont pas la même racine, 5 mots différents. Mais le mot qu'on a ici ce matin revient que 10 fois à lui. Je vous épargne le mot. Mais on va essayer de le voir dans d'autres endroits pour voir la richesse de ce mot. D'accord ? Donc ce mot persévérer, on va le voir dans d'autres passages. Et je vous invite à prendre le premier passage dans Marc 3, 9. Et vous allez voir que ce n'est pas le mot persévérer qui est écrit. Mais ce sont des phrases ou des expressions synonymes qui apportent de la richesse à ce mot. Et ça va nous montrer comment ces premiers chrétiens persévéraient et à quoi ils s'attachaient. Prenez Marc chapitre 3, verset 9. Bon, pour ceux qui prennent des notes et que ça les intéresse, le mot grec c'est proskatereo. Voilà, il revient 10 fois. Allez, Marc 3, 9. C'est Jésus qui est là. Il chargea ses disciples. Marc chapitre 3, verset 9. Bon. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Vous allez me dire, mais Florent, il est où le mot persévérer là-dedans ? Et pourtant, le même mot que nous avons en Actes 2, 42 est dans ce passage. C'est le mot « tenir toujours », « garder une position ». On obéit à l'ordre du maître. Jésus donne une ordonnance, on lui obéit, on garde position, on est là, on se tient à disposition. Donc, la première richesse de ce mot « persévérer », c'est se tenir à disposition, se tenir toujours là au même endroit. On ne bouge pas. Il va avoir, comme on l'a entendu ce matin dans les chants ou dans les prières, des flots. Il va avoir des moments donnés, des épreuves. Mais on tient bon. On tient bon. Voilà une des premières caractéristiques de la persévérance. Ce mot, on le retrouve aussi dans... on revient dans Actes, cette fois-ci. Acte 6. Et c'est très intéressant. C'est le moment où il va mettre en place des diacres. Acte 6, verset 4. Donc, premier mot à retenir, ces premiers chrétiens vont persévérer, ils vont tenir toujours, et on verra le programme après. Acte 6, 4 va encore renforcer la richesse de ce mot. Donc il fallait mettre des serviteurs parce que l'église grandissait, il fallait structurer l'église locale. Et là, ils arrivent, ils disent, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le mot persévérer que nous avons ici, le même que Acte 2, 42, c'est le mot nous appliquer à. Donc la persévérance implique aussi une application, une constance. Combien c'est pas le fort de l'être humain, la constance? S'appliquer à quelque chose, ça demande des efforts. Ça demande du renoncement à soi. C'est ça la persévérance. Vous retrouvez aussi ce même mot encore dans Romains 13, 6. Mais on n'ira pas le voir maintenant. On va voir un autre passage. On va rester dans les actes pour que ce ne soit pas trop compliqué dans notre recherche de passage. Allez dans Actes 8, 13. Encore ce mot persévérer. Vous allez voir encore ce mot qui n'y est pas, mais on va voir encore la richesse de ce mot ici. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il le voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le mot ici pour persévérer, il ne quittait plus. Il ne le quittait plus. Ces 3000 âmes qui vont se convertir ne vont plus quitter l'enseignement des apôtres, ne vont plus vouloir quitter cette communion fraternelle. Ils vont vouloir tout mettre en commun. Ils ne vont plus quitter cette envie de prier ensemble. Et ça, c'est l'église locale. Ces premières églises locales du premier siècle. Et je pense que c'est un enseignement intemporel. Ce n'était pas réservé aux chrétiens de Jérusalem à cette époque-là. Je crois que c'est encore quelque chose qui est applicable aujourd'hui pour nous. Allez, on regarde un dernier mot, un dernier passage pour donner la richesse de ce mot. C'est dans Actes 10 aussi et au verset 7. Là encore, vous n'allez pas voir le mot persévérer. Mais en grec, il y est, et c'est encore un synonyme. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat, pieux d'entre eux, qui était attaché à sa personne. Et là, c'est le mot être attaché à. La persévérance implique un attachement profond, sérieux. Hein, on tient bon, on l'a vu dans notre premier mot, on tient ferme. On s'applique entièrement, on ne quitte pas, on n'abandonne pas, on s'attache à. Voilà toute la richesse de ce mot persévérer. Les premières églises locales ont commencé avec cette caractéristique fondamentale, la persévérance. Suis-je caractérisé par la persévérance? Les premiers chrétiens étaient attachés, étaient assidus, étaient appliqués, tenaient ferme dans l'enseignement de l'évangile, dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient entièrement appliqués à ça. Et il faut se remettre dans le contexte. Le contexte des premiers chrétiens et premières chrétiennes. Ces 3000 personnes sont essentiellement des juifs qui venaient de régions différentes d'Israël ou de l'Europe. Certains arrivaient même sûrement de Rome pour fêter cette fête Shavuot qui était tellement importante, cette fête de Pentecôte pour les juifs, elle était tellement importante. Ils étaient prêts à faire des journées, des mois de voyage pour participer à cette fête à Jérusalem. Imaginez ces familles entières qui viennent là, qui sont à Jérusalem, qui retrouvent peut-être des cousins, des cousines. Ils font la fête là entre juifs, ils sont contents. Et puis voilà que la prédication de la parole va remettre en question toute leur culture, toute leur foi, parce qu'ils découvrent Jésus-Christ. Ils découvrent le vrai Messie. Ils se mettent à genoux. Ces hommes et ces femmes vont devoir repartir dans leur ville natale, leur village, avec l'évangile. Est-ce qu'ils vont être la bienvenue? Absolument pas. Un juif qui reconnaissait Jésus comme le Messie allait perdre peut-être toute sa famille. Et qu'on connaît l'importance de la famille dans le Moyen-Orient, l'importance de la famille dans la culture juive. Ils pouvaient perdre leur famille. Ils pouvaient perdre leur travail. Si c'était un petit village, on n'allait plus leur adresser la parole. Ces 3000 personnes, on le voit dans Acte 2, qui viennent un peu de différentes régions, vont repartir dans des endroits où ils vont plus être la bienvenue parce qu'ils ont accepté Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Alors la notion de persévérer, elle était fondamentale. S'ils ne comprenaient pas cette notion de persévérer, s'attacher à, s'appliquer, tenir ferme, ils auraient tout abandonné. Et ce sera pareil pour les 5000 autres conversions qui, elles, je pense, les 5000, la deuxième vague de conversion, pour moi, là, c'était, je pense, exclusivement que des gens de Jérusalem, contrairement à la première vague, où ça va repartir un peu dans la diaspora. Donc, rentrer chez soi en croyant autre chose que tout votre village depuis des siècles, c'était pas une histoire facile. Mais peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ un jour dans votre vie et vous avez grandi dans une famille athée, une famille peut-être musulmane, une famille catholique, une famille qui pratiquait une autre religion, peut-être qui était dans le vaudou ou autre, je ne sais pas. Et vous ramenez l'évangile. Et vous n'êtes pas la bienvenue. Vous n'êtes pas la bienvenue. Au travail, vous n'êtes pas la bienvenue. Vous étiez monsieur tout le monde qui faisait un peu comme tout le monde et vous acceptez Christ et vous voyez que votre vie change. Vous ne pouvez plus penser comme ce monde, vous ne pouvez plus agir comme ce monde. Et au travail, on vous dit, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Vous pouvez perdre même votre travail ou votre poste. On peut vous pourrir jour après jour. Si la notion de persévérer n'est pas là, vous ne tiendrez pas. Ce sera trop compliqué. Dieu veut que ses enfants soient persévérants dans ce qu'il demande. Persévérant, et c'est ça qu'on va regarder un peu dans l'enseignement de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Vous savez, Dieu sait qu'en tant que chrétiens, nous sommes face à de l'opposition. Nous sommes face à du découragement. Et notre propre chair ne veut pas persévérer dans le programme de Dieu. Notre chair humaine est oisive. Elle est prête à persévérer dans toutes les choses qui sont pas de Dieu. Mais dès que c'est des choses spirituelles pour Dieu, c'est compliqué. On touchera tout à l'heure ça dans la prière. Hein. Se poser un soir pour regarder une activité sportive, pour passer du temps avec des amis, pour faire ce que vous voulez, c'est toujours facile. Mais prendre la voiture ou marcher pour aller prier avec ses frères, ah, d'un seul coup, on est fatigué. Ouais. Mais la journée a été longue, hein, mais pour faire les autres choses, c'est jamais fatigant. Et on va développer ça tout à l'heure par rapport à la prière aussi. La notion de la persévérance. Il faut aussi comprendre que l'épanouissement et les progrès de l'église locale dépendent de l'engagement et la persévérance des chrétiens qui la composent. Ça veut dire qu'une église qui veut persévérer, qui veut grandir spirituellement, même en qualité et même en nombre, je n'ai pas peur de parler de ça aussi, il faut que chaque chrétien comprenne que c'est sa responsabilité. Ce n'est pas l'histoire de 2-3 personnes, ce n'est pas l'histoire du pasteur et de son équipe, mais de tout le corps. Vous savez, quand je vais me retrouver devant Dieu, je ne peux pas dire à Dieu, « Ah, Seigneur, tu sais, je n'ai pas pu être persévérant parce que ma femme, elle me fatiguait. » Ou mes enfants, j'ai six enfants. Là, le mois prochain, j'aurai mon sixième enfant. « Ah, mes enfants, tu sais, ils m'ont tellement pris de temps, ils m'ont tellement fatigué que je ne pouvais pas être persévérant pour toi. Ah, tel frère ou telle sœur dans l'église, ils me fatiguent, les gens de l'église. Ils ont tous leurs problèmes, tous leurs soucis, ils viennent toujours me parler. Ils ne changent pas, ils me fatiguent. Et, Seigneur, je n'ai pas envie d'être persévérant. » Dieu va me dire, c'est pas eux le problème, c'est toi. Toi, je te demande de persévérer. Tu es responsable devant Dieu de cette persévérance. Chacun est responsable de sa vie chrétienne devant Dieu. Et Dieu veut former des hommes et des femmes à persévérer. On est à son école. Ah, c'est pas toujours agréable. Mais c'est bon. Et ce matin, dans cette salle, Dieu veut travailler le cœur de chaque individu. Que tu sois au collège, que tu sois au lycée, à l'université, dans la vie professionnelle, que tu sois à la retraite, Dieu veut encore travailler ton cœur pour que tu sois persévérant ou persévérante dans son programme. Dieu veut que l'on soit persévérant et persévérante dans l'enseignement de la parole. Ça, c'est le premier mot que nous avons ici. Y persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors, il y a des petits malins, des fois, ils vont me dire, Florent, tu as dit enseignement de la parole, mais là, il y a marqué enseignement des apôtres. C'est pas la même chose. La parole n'était pas rédigée encore à cette époque-là. Je dis, ah, bonne remarque, bonne question aussi. La parole n'était pas encore rédigée. Donc, les premiers chrétiens persévéraient dans ce que les apôtres avaient reçu de Jésus-Christ, et ça on le voit dans les évangiles, tout leur enseignement, et ils répétaient tout l'enseignement qu'ils avaient reçu de Christ. Ensuite, les épîtres, les actes des apôtres et les évangiles vont être rédigés, et nous sommes au bénéfice de ça aujourd'hui. Mais dire qu'aujourd'hui nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres n'est pas faux parce que nous reprenons ce que les apôtres nous enseignaient tel que l'apôtre Paul avec toutes ses épîtres ou les évangiles ou même Actes, même si Luc n'était pas un apôtre, mais en tout cas de l'enseignement de la parole. Donc nous avons cette responsabilité, chacun, de persévérer dans l'enseignement de la parole. J'ai noté ces hommes et ces femmes persévéraient dans la connaissance de l'écriture. D'autres mots, constant, assidu, vous avez d'autres vocabulaires dans la Bible. Plonger nos regards dans l'écriture, sonder les écritures, méditer les écritures, étudier les écritures, écouter la parole de Dieu pour ceux qui n'arrivent plus à entendre. Hein, dans notre assemblée, on a des gens qui n'arrivent plus à lire. Nous avons des personnes qui n'arrivent plus à lire, mais ils ont toujours leurs oreilles. Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques, on peut installer à des gens la Bible en audio. Il est bon d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas se priver. Il faut être persévérant, assidu dans la parole de Dieu, jour après jour. Et en même temps, il ne faut pas le faire pour le faire, parce que ça n'apportera pas grand-chose. Il faut avoir cette conviction de cœur. Si tu n'as plus la joie de prendre du temps dans la parole de Dieu, et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver de plus avoir de joie à lire la parole de Dieu, ou la phrase la plus terrible, c'est « Je sais déjà, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, je connais par cœur ces passages. » C'est les pires mensonges, ça. Ça, c'est les pires. Je les déteste quand ils arrivent à mes oreilles. Ou j'arrive des fois, là, en ce moment, je suis dans ma lecture, des fois, quand on arrive avec les chroniques et tout, je dis « Mais je connais par cœur ces histoires, qu'est-ce que j'ai encore à... » Si, persévère. Dieu va encore t'enseigner quelque chose. Il va encore t'enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner. Quand nous avons plus cette joie de lire la parole de Dieu, de persévérer dans la parole de Dieu, alors la première réflexe que je vous conseille, c'est de se mettre à genoux et de demander pardon à Dieu. De demander un pardon à Dieu, de ne plus avoir cette soif de la parole de Dieu, de ne plus avoir cette constance dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé ce test, je l'ai osé le faire une fois à l'église locale où je suis, mais j'ai dit le faites pas quand même parce que ce n'est pas terrible. Faites une semaine sans lire la parole de Dieu. Et on fait le bilan à la fin de la semaine. Et faites une semaine en étant persévérant, assidu, constant dans la lecture de la parole de Dieu, sans relâche. Et on fait le constat à la fin de la semaine. Mes amis, il est évident le constat. Vous le savez tous autant que moi. Quand vous commencez à lâcher une journée dans la parole de Dieu, ben souvent il y a une deuxième qui s'enchaîne, puis une troisième. Et certains chrétiens dans nos églises, je ne suis pas naïf du tout, peuvent passer des fois un mois sans lire la parole de Dieu. Ou ils sont très comme ça. Lundi, mardi, oh, jeudi, oh. Ah, vite, on arrive dimanche, il faut lire le samedi quand même un peu. Ouais. Être constant, persévérant dans la parole de Dieu, ça demande une discipline. Et tout ça, on ne le fait pas juste parce qu'il faut le faire. C'est parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu. C'est le seul endroit où tu peux être ressourcé, apaisé ce temps avec Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui va t'apaiser. Vraiment. Ou ça va t'apaiser, mais de manière éphémère. J'ai goûté à plein de choses de ce monde, en tant que non-chrétien. Ça n'a jamais apaisé mon âme. Quelques instants, mais pas grand-chose. La parole de Dieu a transformé et apaise notre âme. Il ne faut pas se priver et être persévérant dans la parole de Dieu. Encouragez-vous les uns les autres. Envoyez-vous des petits textos. Moi, avec les gars de l'église, on a l'application, vous savez, Bible, on peut avoir des programmes et on peut même s'envoyer des petits textos via l'application. Alors, t'en es où je t'ai pas vu, là, t'as pas checké ta lecture. Oui, j'ai. Ok, allez, demain, on y va. Et on s'encourage à lire la parole de Dieu ensemble et à partager la parole de Dieu ensemble. C'est tellement important de persévérer ensemble dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut que ses enfants persévèrent dans la parole. Ça réjouit son cœur de père. Dieu veut être au centre de votre vie. Il ne veut pas être la cerise juste sur le gâteau. Il veut être le gâteau tout dans votre vie. Dieu veut être au centre de votre vie. Et pourtant, on peut vivre des vies ou des journées comme si Dieu n'existait pas. C'est fou, ça. Il y a des journées, on les vit comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu, s'il veut arrêter ta vie comme ça, il va l'arrêter, hein. Ton cœur, comment tu veux l'arrêter? C'est qui le contrôle? C'est lui, c'est pas toi, hein. La vie va tellement vite. Dieu au contrôle de tout. Profitez de ce temps que Dieu vous accorde. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et Dieu le dit. Soit tu fais ces choix ici-bas avec moi, soit tu veux pas de moi. Mais quand la vie est finie, la vie est finie. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Soit tu vas avec lui pour l'éternité, soit tu vas loin de lui pour l'éternité. Et je le souhaite à personne. Quand tu entends la voix de Dieu qui te parle, il ne faut pas attendre. Même si tu ne comprends pas tout. Moi, quand je me suis converti, je ne comprenais pas tout de Dieu. J'ai juste compris que j'avais besoin de sa grâce et de m'accrocher à lui. Il a transformé ma vie. J'avais 17 ans. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Dieu sait que la persévérance dans la parole de Dieu nous éloigne du péché. Celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, celui qui est inconstant dans la parole de Dieu, cette personne-là, ce chrétien-là, se met en danger. Tu te mets en danger. Un psaume qu'on connaît très bien, et je sais que vous avez dû l'entendre beaucoup de fois ici pendant des années, ce psaume-là. Le psaume 119. C'est un des seuls, c'est le seul psaume, je ne veux pas dire, qui, sur ses 100, plus de 160 versets, parle presque à chaque fois, peut-être à l'exception d'un ou deux versets, de la parole de Dieu. Sinon, c'est le chapitre qui parle toujours de la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? D'après qui? La parole de Dieu. Comment éloigner le péché de nous? En s'attachant à la parole de Dieu, en persévérant dans la parole de Dieu. Donc, ne passe pas du temps dans la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas, tes pensées elles vont partir à 100 à l'heure, faire n'importe quoi. Tu vas plus avoir de scrupules de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous garde. Et il faut persévérer dedans. Il ne faut pas lâcher ça. Et l'église locale a aussi pour but d'édifier le peuple de Dieu qui la compose. Et l'église locale a pour but de persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Le jour où, en tant qu'église locale, vous ne persévérez plus dans la parole de Dieu, inquiétez-vous. Soyez alarmés. Il faut qu'elle soit au centre de votre vie d'église locale. C'est la parole de Dieu. Elle est intouchable. Elle est parfaite. Elle est sans erreur. Elle parle à toutes les époques, à toutes les cultures et à tous les âges. Notre persévérance dans la parole de Dieu nous donnera de grandes et de belles victoires. Vous savez, en tant que pasteur, on reçoit beaucoup de gens et dans mes plus de 10 ans de ministère, j'ai rencontré des histoires les plus folles qu'on pourrait entendre dans des vies chrétiennes. Je suis plus du tout surpris du péché ou des choses qui peuvent arriver dans une vie chrétienne. Plus du tout. Et des choses atroces. Par contre, je suis toujours émerveillé de comment Dieu est capable de restaurer, de pardonner à travers la parole de Dieu. Et je dis aux gens que les plus grandes victoires et les plus belles victoires dans la vie de quelqu'un, quel que soit son passé, quelles que soient les choses qu'il est en train de faire, les victoires vont se gagner à travers la connaissance de la parole de Dieu. Il me dit, oui, mais la prière et tout ça, moi je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je dis, c'est bien la prière, c'est important, on va parler de ça. Mais est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la parole de Dieu? Ah non, moi c'est la prière, moi c'est que la prière. Je dis, quand le diable vient voir Jésus, très important cet enseignement-là, quand le diable vient voir Jésus pour le tenter dans le désert, il est en moment de jeûne, il est en moment de prière, certes, c'est vrai. Mais comment Jésus va combattre? Comment Jésus va combattre? Par la parole de Dieu. La parole dit. Quand je suis attaqué par mes pensées, par ma propre chair, par l'ennemi, on me prend des fois pour un fou, je récite des versets à haute voix. Et je les récite. Et je peux vous dire que ça fonctionne. La parole de Dieu, connaître des versets, connaître la parole de Dieu et combattre avec la parole de Dieu donne de belles victoires. Mais il faut persévérer pour ça. Il faut connaître la parole. Les premiers chrétiens persévéraient aussi dans la communion fraternelle et la fraction du pain. Je le mets ensemble. La communion fraternelle, il faut remettre dans le contexte, était vitale pour les premiers chrétiens. Pour certains, c'était leur seule famille. C'était les frères et sœurs en Christ. C'était leur seule famille. De prendre la Sainte-Cène, peut-être même avec quelqu'un, cette fraction du pain, on pense que c'est le moment de la Sainte-Cène, c'était vital. Tellement important. Dieu veut que ses enfants vivent leur foi avec d'autres chrétiens. Dieu a mis en place l'église locale pour cela. Et Dieu nous enseigne à être participants à la vie de l'église locale. L'église locale est tellement chère au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu vibre pour l'église locale. Et alors certains vont me dire, oui, mais attention, il y a l'église universelle, il ne faut pas l'oublier non plus. Et aujourd'hui, l'église universelle commence à prendre beaucoup de place. Mais l'église locale et l'église universelle ne vont pas l'une sans l'autre. L'église universelle, c'est l'ensemble de toutes les églises locales dans le monde, de tous les croyants. L'église locale, c'est l'église voilà, qui est implantée ici à Pessac, puis une autre dans un tronçon, c'est le petit groupe de chrétiens qui se retrouvent. Donc l'une ne va pas sans l'autre. Mais quand on étudie le Nouveau Testament, 80% des passages qui parlent de l'assemblée ou de l'église concernent l'église locale. Seulement 20% parlent de l'église universelle. Et quand Dieu a révélé à l'apôtre Paul d'écrire, il n'a pas écrit l'épître à l'église universelle. Il a écrit plein d'épîtres aux églises locales. Donc aujourd'hui, l'église locale est nécessaire. Vivre sa vie chrétienne derrière son ordinateur ou dans sa maison en disant « Moi, je fais partie de l'église universelle, Dieu me connaît, j'ai pas besoin de l'église locale parce que les dénominations, c'est du n'importe quoi, c'est les hommes qui les ont mis, tout ça, tout ça. » Ok, oui, c'est vrai. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Quand certaines disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis... Elles étaient déjà là, les dénominations. Et Dieu le savait. Dieu a pas dit, oh mince, les chrétiens vont faire des dénominations. Oh là là. Non. Dieu savait très bien que ça allait avoir lieu. Et l'évangile est aussi bien prêché dans telle dénomination que dans telle dénomination. On a des fonctionnements différents, on a des points de doctrine qui peuvent changer. Mais je crois qu'il y a des dénominations où la parole est bien prêchée, même si c'est pas dans laquelle je suis. Et voilà. Et Dieu sauve des gens dans ces milieux. Et ensuite, c'est à eux à faire de voir où la parole de Dieu est le mieux enseignée, de faire cet effort-là aussi. Mais l'importance de l'église locale. Soyez attachés à votre église locale. Persévérez dans votre église locale. Aimez votre église locale parce que Dieu l'aime, votre église locale. Ne l'abandonnez pas, ne la quittez pas. La communion fraternelle, lorsqu'elle est exercée dans nos vies, elle transforme aussi notre caractère. Elle détruit mon égoïsme. Elle détruit mes préjugés et mon mécontentement. La communion fraternelle nous prépare à la vie éternelle ensemble. Imagine le frère qui est à ta droite ou à ta gauche, ou derrière et devant toi. Que dans l'église locale, on a un peu de mal. On s'est pardonné quand même, on a eu des tensions, on s'est pardonné. Mais tu vas vivre l'éternité avec lui. Donc ça va être long, hein. Donc aime-le maintenant, hein. C'est normal qu'il y ait des tensions dans une église locale. On vient de cultures différentes, on vient d'arrière-plans différents, on a des caractères différents. Et faire travailler tout ça ensemble. Mais un pasteur, c'est impossible, il devient fou avec ça. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Et si chacun prend conscience de ça, qu'il est là pour faire du bien à l'autre, pour que l'autre travaille aussi en lui, combien j'ai été transformé dans mon caractère au contact des frères et sœurs dans l'église locale. Mon caractère a changé, ma façon de penser a changé. Grâce aux autres, parce que c'est le programme de Dieu. Mais si tu es tout seul devant toi, derrière, tout seul chez toi, devant un ordinateur, à vivre ta vie chrétienne, comment ton caractère il va être changé? C'est pas avec ton chat, ton ordinateur ou ton mur, hein. C'est pas ça la sanctification. C'est se confronter les uns aux autres. Ne pas être d'accord des fois les uns avec les autres. Mais de savoir s'aimer, échanger, se pardonner et avancer ensemble. C'est pas non plus être tous dans le même moule, tous penser pareil. Il y a des clones dans l'église locale. Absolument pas. Ce serait pas une richesse. Moi j'aime avoir une église locale multiculturelle. Et c'est une joie d'être pasteur d'une église multiculturelle. Des âges où on a des bébés jusqu'à des personnes qui se rapprochent de la mort. Combien? Combien c'est une richesse? Et vous avez cette richesse ici aussi. Et il faut pas s'en priver, il faut prendre ses temps ensemble. Alors je vous donne un petit challenge que j'ai lancé chez moi, mais je vous le lance ici. Apprenez à connaître les prénoms les uns des autres. Très important. Apprenez à connaître les prénoms les uns des autres. Prenez du temps pour manger ensemble, même si je sais que vous le faites déjà chaque dimanche. Mais en dehors du dimanche, c'est pas que le dimanche la communion fraternelle, c'est la semaine aussi. Essayez, partagez des temps ensemble, allez marcher ensemble. Tiens, tel frère ou telle sœur, t'aimerais qu'on aille marcher un peu pour s'encourager. Faites ça, soyez actifs et non passifs, allez vers les autres et n'attendez rien des autres. Si dans la vie de l'église locale, on attend toujours, j'entends les gens, oui, moi je me sens pas aimé, voilà, et j'attends toujours que l'église m'aime. Bon, j'entends ça, l'église m'aime, ok, l'église t'aime. Et toi, t'aimes qui? Tu vas vers qui? Ah ben non, ben, commence par là mon ami. Commence par là. Si on est toujours là à attendre et on toujours se plaindre des autres parce qu'ils ne font pas ce que moi je veux ou ce que j'ai jamais eu dans ma vie parce que j'ai une carence affective, alors maintenant l'église doit me combler de toute ma carence affective. C'est un mensonge. C'est Christ qui va combler cette carence affective d'abord et cette carence affective va changer et grandir quand toi tu vas aller vers les autres. Il va y avoir une transformation de vie. Et c'est ça la beauté de l'église locale. Les premiers chrétiens persévéraient dans cette communion fraternelle. C'est important. Et ça a un coût, hein. Je sais que ça a un coût. Et je peux vous le dire, quand on a une famille nombreuse, se partager avec les autres dans la communion fraternelle, ça a un coût. Mais c'est tellement bon. Et c'est tellement nécessaire. Ces premiers chrétiens aussi, ces 3000 âmes qu'on a vues persévérer dans cette fraction du pain, donc on appelle ça souvent la Sainte-Cène, on pense que c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Et là, c'est pour se rappeler tout ce que Christ a enduré à la croix pour nous, pour moi, à cause de mon péché. Pour se rappeler cette promesse qu'il va revenir chercher son Église, qu'il va revenir chercher les siens. Et si on n'est pas contemporain de l'enlèvement de l'Église, Christ nous réserve une place à ses côtés pour l'éternité. Et c'est ça, à travers le moment de Sainte-Cène, c'est se rappeler ce que Christ a fait pour nous. C'est un temps d'unité ensemble. Combien il est bon de passer du temps dans la Sainte-Cène. Il y aurait tellement de choses à dire sur la Sainte-Cène. c'est très traditionnel, c'est très très carré dans nos milieux. Moi, je le fais par exemple dans notre église, on fait ça le dimanche, une fois tous les 15 jours. Certains voudraient faire ça toutes les semaines, mais moi, je vais plus loin dans ma réflexion de la Sainte-Seine. Moi, la Sainte-Seine pourrait se prendre à chaque réunion d'église locale. Il n'y aurait aucun problème avec ça. On a un temps de prière un mercredi soir. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un temps de Sainte-Seine? On a une étude biblique. On est en train de prendre une, on fait une étude biblique. On travaille sur un sujet. Et à la fin, on veut prendre un temps de prière et faire la Sainte-Seine. Qu'est-ce qui nous empêche de ça? Bibliquement, c'est ce qu'on voit. Ils faisaient ça. Il n'y avait pas un jour réservé pour prendre ce temps-là. Alors, je sais que des fois, c'est un peu compliqué. Ça change des habitudes. Je ne l'ai pas encore changé, moi, ça, chez nous. Mais c'est une réflexion à avoir. Il persévérait là-dedans. Donc c'était un moment qui était important de prendre la Sainte-Seine. La Sainte-Seine peut se prendre régulièrement. Il n'y a pas un souci avec ça. C'est notre état de cœur qui est important là-dedans. Allez, on finit avec notre dernière section, la persévérance dans un domaine qui est tellement important, la prière. Ces hommes et ces femmes avaient compris, grâce au Consolateur qui était scellé en eux, l'Esprit Saint, l'importance de prier, de parler à celui qui tient tout dans ses mains. La prière me permet de dépendre de Dieu. La prière, c'est pas juste je ferme mes yeux et je raconte ma vie à Dieu. Ou je parle pour des fois même que les autres comprennent ce que j'ai envie de dire ou ce que je pense. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné de pouvoir lui parler. Je parle à Dieu. Mais quand on parle à quelqu'un, à un moment donné, il faut savoir se taire aussi. Et dans la prière, il faut savoir aussi écouter Dieu. Ce que mes enfants ils me disent, mais Florent, comment Dieu il te parle? Tu l'entends quand tu pries? Il te dit des choses? Parce que moi, ça n'a jamais marché, ils me disent. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne m'envoie pas un haut-parleur ou un texto. Mais je dis, j'écoute, je suis là, dans le silence. Et je crois que des fois, l'Esprit nous emmène dans une réflexion de prière ou dans une direction à penser des fois à une personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous êtes dans ce temps de silence et hop, il y a un prénom qui vous passe. Et pour moi, je prends ça comme Dieu veut me dire, prie pour lui. Ou des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi, en pleine nuit, des fois, je suis là. Hop, je vais être éveillé et j'ai un prénom ou une situation qui me vient et qui me pousse à prier. Ça, c'est écouter Dieu. Ça, c'est écouter Dieu. Ou qui va vous dire, prends la parole. Vous allez avoir cette conviction forte au fond de vous. Seigneur, parle-moi. Prends ma parole. Prends, lis. Et tac, vous êtes tombé sur un verset. Waouh! Juste un verset, c'est ça que j'avais besoin. Des fois, un mot, j'avais besoin de ça. Merci Seigneur. Vous voyez? Et je pense qu'il est important de persévérer dans ce temps de prière. Ça peut s'effectuer dans des maisons, comme à l'époque, entre chrétiens. Ça peut se faire dans un bâtiment comme ici. Mais en tout cas, prenez ce temps. Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ne vous privez pas de ce trône de la grâce. Et ce que j'aime répéter dans mes enseignements dans la prière, le seul moment, écoutez bien, le seul moment où ton corps physique, là, toi Florent ou toi l'individu qui est devant moi, va pouvoir goûter vraiment à l'éternité, rentrer dans un espace-temps qui s'appelle l'éternité, c'est le temps de la prière. Pourquoi? Parce que si Dieu me dit, approche-toi du trône de la grâce par la prière, ok, j'écoute Dieu, je m'approche du trône de la grâce, donc le trône de la grâce, c'est l'éternité. Ce trône de la grâce, vous êtes d'accord avec moi? Il est dans l'éternité, il n'est pas ici-bas. Donc, comment j'accède à ce trône de la grâce? Par la prière, par l'esprit. Donc, quand je suis en train de parler à Dieu sérieusement et que je suis transporté dans sa présence éternelle. Et c'est pour ça que des fois, quand on rentre en temps de prière, la notion du temps n'est plus là. Parce que vous quittez un endroit. Et je ne suis pas dans du mystique, là. On n'est pas sur du mysticisme. Hein. C'est une réalité spirituelle. Et vous pouvez passer des fois des heures être dans la présence de Dieu. Parce que le temps n'est plus là. Et ces chrétiens-là, qui vivaient de la souffrance, qui avaient perdu beaucoup de choses, persévéraient ensemble dans la prière. Ils avaient compris ça. Aujourd'hui, les temps de prière attirent peu les chrétiens et c'est mondial. Parce que cela demande un effort. Proposer un concert ou proposer une réunion de prière chaque semaine, vous verrez ce qui attire le plus. Vous verrez. C'est un combat la réunion de prière. Charles Spurgeon a dit ceci, grand prédicateur, deux choses l'une, ou la prière vous fera renoncer au péché, ou le péché vous fera renoncer à la prière. Est-ce qu'il faut passer par des épreuves dures, très dures de la vie pour comprendre l'importance de prier avec ses frères et sœurs? Afin d'écouter ce que Dieu me demande? Je ne crois pas. Je crois qu'on est assez intelligent spirituellement parce que Dieu nous a donné cette capacité de comprendre qu'on peut et qu'on se doit de persévérer, de prendre du temps dans la prière. Ça va te coûter d'aller prendre du temps dans la prière? Je sais pas, c'est quand votre réunion de prière ici? C'est? Ok, le mercredi, il devrait y avoir autant de monde que le dimanche matin. Moi, j'estime pas ma vie d'église locale le dimanche matin. Je peux avoir mes 70, 75, 80 personnes dimanche matin. Mais si j'ai que 5 personnes à la réunion de prière, je vois la santé spirituelle de ma vie d'église. Et je ne suis absolument pas dupe. Et je ne dis pas que mon église locale va bien. Je dis aux gens, vous pouvez être 80, pas de souci. Mais si j'ai que 5 personnes la semaine, il y a un problème. C'est là la machine, c'est là qu'on voit vraiment la persévérance. On n'est plus dans la tradition de dire, oh, on se lève quand même le dimanche matin, parce que si on ne me voit pas, bon, je viens. Mais la semaine, c'est là qu'il faut combattre ensemble. Et je vous encourage à considérer ça. Alors oui, il y a des vies professionnelles qui sont difficiles. Oui, il y a des situations familiales. Regardez, mon épouse, par exemple, qui a 5 enfants en charge, ne peut pas venir aux réunions de prière, nos réunions de prière le soir, parce qu'on a plusieurs réunions de prière le soir. Mais peut-être réfléchir aux mamans aussi. Et nous, on a mis en place une réunion de prière le matin qui est plus facile pour les mamans. Donc ça, c'est une réflexion d'église à avoir. Mais réfléchir à avoir des fois plusieurs temps de prière dans la semaine ou des cellules de prière pour que tout le monde puisse participer à cette vie de prière. C'est des vraies réflexions. Et je pense que ça encourage une vie d'église et ça fait grandir une vie d'église. Les ados peuvent venir prier, les lycéens peuvent venir prier. Il faut que ça soit multigénérationnel, la vie de prière. Quand on devient une église de prière, combien l'église change. Je vous raconte juste cette petite histoire. Il y a 2 ans, quand je suis rentré dans le temps à temps plein dans le ministère pastoral, j'ai travaillé pendant 10 ans avant avec le ministère à côté. Quand je suis rentré dans le ministère pastoral, je dis, Seigneur m'avait mis quelque chose à cœur. Il faut que l'église locale soit ouverte tous les jours pour prier. J'ai eu ça à cœur. Je savais très bien que ça allait être un challenge de fou. Enfin, je sais que c'était compliqué d'avoir une prière dans notre église locale. Et du coup, on a commencé à mettre plusieurs réunions de prière. Alors, c'est un coup, hein. C'est un coup de laisser sa famille, de partir. Et des fois, pendant plusieurs mois, de se retrouver tout seul ou que 2 personnes à la réunion de prière. Et d'être là et dire, Seigneur, je vais lâcher. Tu sais que j'ai cette conviction, mais je peux plus là. Être là tous les lundis soirs, l'hiver surtout. Je laisse ma femme avec les enfants, je viens pour prier ici. Et il n'y a personne. Et je ne suis pas quelqu'un qui saoule les gens dimanche après dimanche pour leur dire, venez prier. Le Seigneur me dit, prie. Et j'ai prié 4 mois, 5 mois, 6 mois, toujours 1, 2 personnes maximum le lundi soir. Vendredi soir, on était un peu plus nombreux, 3, 4. Jeudi matin, des fois, 2, 3 personnes. Dimanche matin, avant le culte, 2, 3 personnes, mais pas grand-chose. Et toujours les mêmes en plus, toujours les mêmes. Puis on a continué. Puis au bout de 6 mois, on n'a pas lâché. Je voulais tout lâcher. Hein. Et je persévère, Seigneur. C'est dur, mais je persévère. Et puis lundi soir, 3, 4. Vendredi, 6, 7. Jeudi matin, 3, 4 de plus. Tac, tac, tac. Mes amis, aujourd'hui, je suis tellement encouragé. Parce que chacune des réunions de prière, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et on peut être plus de 10 personnes minimum par réunion de prière. Ça a un coût. Et je sais que les gens font des grands efforts. Il faut être reconnaissant de ces efforts. Et ça a pris du temps. Ça a pris plus d'1 an et demi, ça. Et j'ai pleuré. Hein. J'avais tout envie de lâcher. Tout. Mais il se passe des choses. Je crois que la prière et tous les grands prédicateurs, vous pouvez lire leurs témoignages, vous pouvez écouter leur histoire d'église locale. Ça passe par la prière. Vous en connaissez tellement d'histoires. La prière doit tellement faire partie et être de notre vie. Et en tant qu'église locale, persévérer dans ce domaine-là. Le temps de prière en église locale est un moment de bénédiction. Combien de fois cela m'a encouragé, m'a fortifié, m'a repris même à travers la prière des frères et sœurs. Combien de fois je suis arrivé à ces réunions de prière fatigué, soucieux. J'avais pas envie d'être là. Honnêtement, mon cœur n'avait pas envie d'être là. Mais j'ai dit, bon, j'y vais quand même parce que si le pasteur n'est pas là, et je sais qu'il y aura peut-être que 2, 3 personnes, mais j'y vais quand même. Combien je suis jamais ressorti d'une réunion de prière. Il n'y avait pas la joie, la paix et la fatigue avaient même disparu. Vraiment, c'est une réalité spirituelle. Combien il faut développer ça, réfléchir en ça. Je ne vous dis pas de révolutionner ça du jour au lendemain. Ça se réfléchit, on s'assoit, on réfléchit ensemble à ça. Mais c'est des vraies réflexions de persévérer en tant qu'église locale dans la prière. Le Seigneur veut qu'on prie ensemble. Il veut qu'on prenne du temps pour le louer, le glorifier. De toute façon, qu'est-ce qui mérite plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre temps de semaine de prendre du temps avec les autres pour prier? Si tu es interpellé par ce que tu entends là en ce moment même, ce matin, par la prière ou tout ça, ne rentre surtout pas dans ce système-là, que j'aime pas trop moi, la fameuse résolution du moment. Ça veut dire que tu es en train de dire « Waouh, là le cœur il bat, le Seigneur est en train de me toucher. Ok, moi je vais être persévérant et je m'engage maintenant. C'est vrai que j'ai pas été très fidèle ces derniers temps à être persévérant dans la réunion de prière ou dans les études bibliques. Mais attention, cet engagement, le fais pas pour les 3 prochaines semaines, pour le restant de ta vie. L'enseignement de la parole, c'est pas pour 2-3 semaines. Persévérer, c'est le restant de sa vie. Parce que souvent, vous faites une prédication sur la prière, les trois mercredis qui suivent, vous avez l'église, toute l'église qui vient pour prier. Mais un mois après, on revient sur le même schéma habituel. Pas du tout intéressant. Et rien de productif, spirituellement. C'est vraiment un engagement. Donc quand tu rentres dans cet engagement, que le Seigneur, ok, je vais persévérer. Est-ce que tu vas en louper? Par fainéantise, oisiveté ou autre raison? Oui. Mais je me relève et j'y vais. J'y vais, je persévère. Nos frères et sœurs du premier siècle ont décidé, je dis bien, de persévérer dans l'enseignement biblique, dans la communion fraternelle, dans la prière. Il reste un exemple pour nous encore aujourd'hui. Cette persévérance a porté du fruit car par la suite de nombreuses âmes sont tournées vers Christ. C'est ce qu'on a lu à la fin de notre chapitre, acte 2. Le Seigneur a ajouté, c'est pas eux qui ont ajouté. Le Seigneur a vu que ces gens persévéraient dans ce programme que Dieu a demandé à l'église locale et Dieu l'a dit, je vois que vous êtes obéissants. Moi, j'ajoute. Je m'occupe de ça. Vous occupez-vous de ce que je vous demande. Moi, je m'occupe du reste. Et Dieu va le faire. Dieu ne ment pas. Dieu tient ses promesses. La persévérance est à la portée de chaque enfant de Dieu parce que Dieu nous équipe de sa propre personne. Il vit en nous. Il est là. Et la persévérance se développe uniquement en s'appuyant sur lui. Pas par tes propres forces. Pas par tes propres raisonnements. C'est par cette dépendance à lui que tu vas pouvoir être persévérant ou persévérante. Voilà, je vous encourage encore à être des hommes et des femmes de persévérance, de méditer encore ce acte 2, 42, et qu'il soit vraiment partie intégrante de votre vie, d'église locale. On va prier. Éternel, je te dis encore merci pour cette église locale ici. Fortifie-la, encourage-la. Merci de toutes ces âmes qui la composent. Fasse que cette église locale soit une église qui persévère dans l'enseignement de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la vie de prière. Et Seigneur, je sais que tu vas ajouter encore des hommes et des femmes dans cette église. Tu vas arracher des âmes perdues parce que c'est une église locale qui va vouloir faire des progrès avec toi. Fais-leur du bien, encourage-les Seigneur. Dès qu'il va y avoir les moments de doute, les moments d'attaque, les moments de stress ou autre, garde-les, protège-les Seigneur, afin que cette église rayonne dans cet endroit de Pessac. Merci encore pour